Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Mardi 2 août 2022, bienvenue à Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellet de retour avec vous pour la prochaine heure. Oui, vous l'aurez deviné, inutile de vous le cacher, j'ai été absent vendredi et hier en raison d'Oshiaga. Oui, Oshiaga. Pourquoi hier, me direz-vous? Parce que j'avais besoin d'un petit 24 heures pour refaire ma santé de gorge après avoir trop crié à Dua Lipa. Un excellent spectacle, sincèrement. Ça nous fait réaliser à quel point on est chanceux d'avoir un site comme le Parc Jean-Drapeau à Montréal. Sincèrement, les scènes sur le bord de l'eau, Montréal illuminé en arrière. C'est fantastique vraiment d'avoir un site comme celui-là. On est extrêmement chanceux et ça vaut la peine de le souligner. Sinon, dans les nouvelles aujourd'hui, ça continue de bouger beaucoup, entre autres sur la scène internationale. Il y a des rumeurs qui parlent de Nancy Pelosi qui se rendra à Taïwan, ce qui jetterait un énorme ombrage du côté de la Chine. On a également les contre-coups du chef d'Al-Qaïda qui a été abattu par un drone américain. Ça aussi, ça fait énormément de bruit, surtout du côté des pays arabes, particulièrement en Afghanistan, où il y a plusieurs Afghans qui ne croient pas que le chef a véritablement été abattu, que ce serait plutôt de la propagande américaine. Bref, un peu des classiques de ce qu'on entend habituellement lorsqu'on parle de ces dossiers-là. Plusieurs, donc, gros sujets d'actualité qu'on va couvrir toute la journée avec vous, mes collègues et moi. Mais pour commencer, il y a cette histoire qui, heureusement, connaît un dénouement qui est, ma foi, heureux, celle d'un homme, Stéphane Bouchard, qui était disparu en forêt la semaine dernière dans le coin de Saguenay et qui, finalement, a été retrouvé samedi en début d'après-midi après avoir passé 3 jours complètement seul en forêt. On dit qu'il était inconscient lorsqu'il a été retrouvé. Il est heureusement, en ce moment, hors de danger à l'hôpital et récupère pour prendre du mieux. Pour en parler avec nous, Rossel Aurore Bouchard, qui est historienne et parente de Stéphane Bouchard, justement. Madame Bouchard, bonjour.
Oui, bonjour. D'abord, parente, disons que je n'embarque pas là-dedans, je suis son père.
Le père.
Historienne, mais je suis son père. Si
voilà.
Vous êtes la théorie du genre, je n'embarque pas dans ça, moi.
Parfait. Historienne et père, donc, de Stéphane Bouchard. Mais premièrement, racontez-nous donc qu'est-ce qui est arrivé au départ. On reprend du début. Vous vous inquiétiez parce que votre fils ne donnait pas de nouvelles et revenait pas vraiment chez vous, c'est ça?
Ben, c'est un circuit qu'il prenait environ 2 fois par semaine pour sa marche. Stéphane est un solitaire. Il a 46 ans. C'est la journée qu'on l'a retrouvé. Il avait ses 46 ans. Quand il partait, il part. C'est habituellement un circuit de 2h30. Le circuit qu'il emprunte, c'est juste à l'orée. Dans le fond, il entre un peu dans ce bois-là. C'est un massif extrêmement dense, un massif qui monte jusque après les Monts Volants, jusqu'à la baie James, si vous voulez. Mmh. Et ces terrains-là, nous les connaissons, nous, parce que nous avons été élevés là-dedans. On allait ramasser des fruits sauvages, on allait à la chasse quand on était jeune, et on était habitués, c'était dans notre culture, dans notre coutume, de partir avec des enfants en groupe, et nous savions très bien qu'on ne pouvait pas se séparer parce que, comme disait souvent ma mère, la caribou rend pas ses morts, les petits. Lâchez-vous pas, prenez attention, puis n'allez pas trop loin dans ces bois-là, mais on y allait toujours très loin. Mmh. Mais on les connaissait, c'était dans nos habitudes. C'est le vrai pays, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le vrai monde qui vient de là. C'est depuis des siècles que ces territoires-là sont parcourus par mes ancêtres. Alors, évidemment, aujourd'hui, avec des petites familles comme nous avons, ils ne vont plus en groupe. D'ailleurs, les jeunes ne vont pas dans cette forêt-là. C'est trop dangereux. Les parents ne voudraient jamais. Mais Stéphane, écoutez, on ne peut pas le retenir non plus. C'est un marcheur. C'est un amant de la nature. C'est un homme d'une tendresse extraordinaire. Et puis, il est parti le midi. Je suis allé le déposer à l'orée du bois, sachant très bien que selon son circuit, c'était 2h30. Mais à 3h de l'après-midi, n'étant pas là, j'ai dit à ma femme, il y a quelque chose qui marche pas, Stéphane n'est pas ici. Lui, il est calibré là, comme un horloge suisse. Alors j'ai dit, je pars sur son circuit, et puis je vais voir, puis d'ici ce temps-là, à 5h, s'il n'est pas arrivé, tu appelles la police. C'est ce qui est arrivé. Et les policiers, les groupes sont arrivés de recherche parce que on est équipé au Saguenay, là, la Sûreté du Québec, la Sûreté municipale, la ville de Saguenay, là, il y a des forêts impénétrables dans la ville de Saguenay. C'est un territoire grand comme la ville de New York. Alors vous imaginez, ça donne sur les Monts Valin. Il faut que cette population-là soit bien équipée. Et effectivement, ils ont été à la hauteur. Mais la forêt est tellement dense. Figurez-vous le film avec le petit Radcliffe qui est dans les forêts, dans l'Amérique du Sud. Ben, c'est exactement le scénario qui s'est produit. Et quand son ami de l'école secondaire l'a trouvé, il lui restait à peu près 1 à 2 heures à vivre. Mmh. Il était pratiquement mort. Et c'est véritablement pour nous un miracle. Là, c'est pas possible. Là où il était, même les hélicoptères étaient au-dessus puis ils le voyaient pas.
Wow.
C'est extraordinaire ce qui s'est produit. C'est véritablement là. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas le secteur, je peux vous dire que c'est beau quand on le regarde en touriste, quand on le regarde de Montréal à partir de chez nous et qu'on dit oh que c'est beau ce milieu-là et un beau jardin. Non, non. Ça ressemble aux portes du paradis perdu, mais ce sont les portes de l'enfer pour ceux qui ne s'y connaissent pas.
C'est une forêt qui est véritablement dangereuse et donc, même en faisant un circuit qu'on connaît bien, c'est possible de se perdre. Là, ça reste traître. Là, Stéphane est à l'hôpital. Est-ce que vous avez pu vous entretenir un tout petit peu avec lui? Est-ce qu'il vous a raconté un peu qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment se fait-il qu'il s'est perdu si c'est un sentier qu'il connaissait si bien?
Il ne le sait pas encore. Il est encore...
Trop
comment
faible.
Je pourrais dire, donc, il est semi-conscient. Les premiers mots qu'il a dit quand il est sorti de son presque coma, là, le premier soir, il dit « Je veux un chien ». Alors ça, c'est extraordinaire. Évidemment, on s'est mis à la recherche d'un beau petit chien, puis on en a trouvé un, on va le voir ce matin. Quand je lui ai montré la photo dans le téléphone tantôt, il s'est mis à pleurer. Alors, écoutez, nous, comme parents, on ne peut pas imaginer, on a vécu un enfer, c'est terrifiant. On a pleuré pendant 4 jours. Moi, j'ai couru les bois, j'ai 74 ans, connaissant ces bois-là, les dangers qui me venaient à la tête, c'est qu'il se soit trompé, qu'il y ait eu un débalancement de sa médication, parce qu'il y a une médication depuis sa plus tendre enfance. Puis après ça, j'ai dit, il y a peut-être bifurqué ailleurs. C'est exactement ce qui est arrivé. Et il dit, papa, quand j'ai pris conscience que j'étais rendu là, j'étais perdu. Et là, c'était partout dans les rochers. Parce que c'est un territoire qui a été creusé, façonné par la dernière glaciation. Puis les hommes n'ont jamais intervenu dans ça, là. On entre véritablement dans les portes d'enfer quand on s'y connaît pas, là.
Ah oui, et
il y a des swamps, puis il y a des tourbières, il y a des ruisseaux. Et le grand danger que j'avais, parce qu'au fur et à mesure, moi j'ai couru les territoires, là, écoutez, presque jour et nuit, là, je suis brisé à 74 ans, mes os sont... Mais c'est pas grave, c'est une belle fatigue. Et ce que j'avais peur, c'est qu'il soit ramassé par un ours. Parce qu'on est dans la période où les ours, surtout les ours avec leurs petits, sont en quête de nourriture. Alors,
il y en a beaucoup dans le secteur?
Je vous le dis pas, on les rencontre même des fois sur des terrains privés.
Ouais.
Les ours voyagent beaucoup dans ce territoire-là, okay, à cette époque-ci. Là. Et moi, ce que j'avais peur, c'est que je me disais, même s'il est encore vivant, il est trop faible pour se défendre. Puis s'il y avait eu une agression de quelqu'un, un être humain, parce qu'on, même s'il n'y a pas de violence dans notre bout, je me suis dit,
on n'est jamais à l'abri. Hein.
Il est incapable de se défendre, c'est un être trop bon. Il serait incapable de donner un coup à quelqu'un. Alors, j'ai dit, il est fait, s'il y a eu une autre agression. J'essayais de m'enlever ça de la tête. Mais la plus grande crainte, c'était les ours. Et vous savez, il était 3 jours, 3 nuits, le nez dans une rivière, dans un ruisseau. Et en agonisant, quand on l'a récupéré, il ne faisait qu'un grognement ou deux. Et il y a les poumons encore, sont en train de lui vider les poumons de la boue qu'il a dans les poumons. Ils lui ont sauvé les reins. L'hôpital de Chicoutimi a fait un travail extraordinaire. Il y a une infirmière à son chevet, 24 heures par jour. C'est extraordinaire. Et les policiers de Saguenay ont fait un travail impeccable. Mais c'est tellement grand, ce milieu-là. Ils ont répondu dans l'heure qu'on les a demandé. On a vu arriver une armée de gardes. Des populations se sont mobilisées pour le trouver parce que on connaît ce milieu-là et nous sommes tous des enfants des mêmes familles. C'est tissé très, très serré. Et puis, oui. Le matin, quand j'ai fait un appel sur Facebook, il était 8 heures du matin parce que là, c'était le dernier effort. J'ai eu une inspiration, j'ai fait un appel aux citoyens de la rue Madoc qui longe le massif. Et alors là, je lui ai dit, écoutez, là, chaque citoyen doit rentrer dans le massif, dans sa part de forêt, et il ne peut pas être autrement que là parce que les hélicoptères, ce qui était ratissé, les policiers l'ont fait. Alors là, il est dans le mille qui longe, le mille de forêt, là, qui longe, qui suit cette route-là, la route Madoc. Et puis, curieusement, ce matin-là, après mon texte sur Facebook, il y a un dénommé Bernard Barrette, un ami de l'école secondaire de Stéphane qui s'est levé pour travailler sur sa maison. Sa femme s'est levée et a dit non, toi, un matin, tu travailles pas sur ta maison, tu vas trouver ton chum. Alors là, il a fait un appel. Alors là, les quatre roues ont commencé à ressortir. Les gens sont sortis de partout. Et lui, il a descendu la forêt à partir de sa terre à lui. Et il est arrivé à peu près à 1,5 kilomètre. Il s'est assis, pour vous dire à quel point c'est dense, il s'est assis, selon ce qu'il nous a raconté, puis c'est véridique, pour prendre son souffle, s'est débouché une petite bière, ça fait partie
du rituel.
Et en ouvrant sa petite bière, il a entendu un grognement à peu près à 10-15 pieds de lui. Il s'est levé debout, puis il a dit « Hey, c'est Stéphane ». Là, il l'a regardé, et il m'a envoyé un SMS immédiatement. Il dit « Rachel, je viens de trouver ton gars ». Et là, j'ai dit « Il respire-t-il ? » Il dit « Oui, il respire ». Et envoyez-moi tout de suite la police. Et là, on a eu un problème. Là, il y a une critique par rapport à l'ensemble du gouvernement. C'est que le 911 qu'il a fait est arrivé à Montréal.
Ah,
imaginez,
ouais.
Il est dans le fin fond de la forêt. Le danger, il est chez nous. Le 911 arrive à Montréal. Ils connaissent même pas Chicoutimi. Savent même pas ce qui est arrivé.
Attendez, vous êtes sérieux? L'appel 911?
L'appel 911 est arrivé à Montréal.
À Montréal.
Ici, on est en maudit contre ça. Lui, ici, il en démarre pas. Les gens, ils en reviennent pas. Alors, Montréal, ne connaissant pas la région, il a envoyé à 911 au lac Saint-Jean. Hey, on est encore à 2 heures de voiture de chez nous. Et là, ce sont les citoyens qui n'arrêtaient pas, les milliers de citoyens qui n'arrêtaient pas de communiquer sur Facebook à partir de ma page. Vous irez voir ma page, là. Mon compte Facebook a même sauté à un moment donné.
Wow.
C'est eux autres qui ont appelé la police à un moment donné. Alors, il va falloir que le gouvernement du Québec comprenne, là, qu'il n'y a pas rien que Montréal qui existe. Les régions du Québec ont des besoins qui sont particuliers. Un 911 partir de la forêt du Saguenay pour arriver à Montréal, c'est un non-sens.
Effectivement,
le gros problème,
ouais.
Il était là parce que si les citoyens n'avaient pas été si serrés, s'il n'y avait pas eu une telle volonté de trouver Stéphane, là, ça a été véritablement une communion citoyenne, il serait mort un matin et on ne l'aurait pas encore trouvé. Là.
C'est vraiment... vraiment, vraiment l'intervention des citoyens, comme vous le dites, parce que il y a clairement un problème là au niveau des répartiteurs d'urgence. On le sait, il y a des pénuries de main-d'œuvre, il y a parfois des problèmes comme ça de redistribution, mais ça, comme vous le dites, on était à quelques heures peut-être là, du décès de votre fils. Et
Heure ou deux, c'était fini. C'était terminé. Écoutez,
par le temps que les secours arrivent, c'était terminé après cet appel-là là, à Montréal qui était redirigé.
C'était terminé. Écoutez, quand ils ont su, là, nous étions tous la famille chez nous, c'était un alléluia. les bien policières qui nous a accompagnés de Saguenay, qui était extraordinaire, est rentré avec nous pour célébrer, mais là, on savait qu'il n'était pas sorti parce que les hélicoptères ne le voyaient pas. Il était dans l'épais taillis, un petit peu comme le petit Radcliffe dans le film. Moi, je vais le réécouter, ce film-là, parce que c'est ce que nous avons vécu. Alors,
mais ils l'ont sorti par hélicoptère, au final? C'est par l'hélicoptère qu'ils l'ont sorti, au final?
Non, c'est, ils ont été obligés, parce qu'on pénètre dans ce taillis à partir de la rue uniquement avec des machettes. C'est des enchevêtrements, je vous dis, là, c'est un enfer. Rentrez là, là. C'est un enfer. Alors, les équipes de sauveteurs 02, sauf la Sûreté du Québec, les ambulanciers, la Sûreté municipale, ils ont été obligés de pénétrer 500 mètres à l'intérieur, là. 500 mètres, c'est un demi-kilomètre à coup de machette, là, pour aller le chercher, puis le mettre sur une civière, puis le lever à bout de bras pour l'amener jusqu'à la route où étaient les ambulances pour l'amener à l'hôpital après. C'est véritablement un miracle. Je ne peux pas imaginer que je connaisse ces milieux-là. Et c'est véritablement un miracle qui s'est produit là. On a un bel épisode à travers toutes les mauvaises nouvelles qu'on a dans cette fichue planète-là. Là, on a un exemple. Quand les citoyens s'aiment, quand les citoyens ont décidé qu'ils faisaient front commun, qu'ils faisaient ce qu'ils étaient en société, s'entraider, qu'on pouvait réussir à renverser des montagnes.
J'aurais pas pu choisir meilleure manière de conclure cette entrevue-là. Russell Aurore Bouchard, historienne, père également de Stéphane Bouchard, qui, heureusement, là, a la vie sauve grâce à l'intervention des citoyens. Et je retiens surtout, là, Mme Bouchard, l'appel au 911 qui a été déplacé jusqu'à Montréal et qui aurait pu coûter la vie de votre fils. Heureusement, ça s'est bien passé, mais il va falloir tirer des leçons de tout ça. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Bonne journée à tous les Montréalais. Merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci. Bonjour. Au revoir.
Alexandre Moranville-Ouellet. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
L'espoir.
Encore une fois, Mathieu Boulay, notre journaliste sportif au Journal de Montréal, Journal de Québec, va nous expliquer un sport sur lequel je ne connais pas grand-chose, une thématique récurrente cet été. Aujourd'hui, du baseball. Mathieu Boulay, bonjour.
Hey, salut Alex. Je suis content de te retrouver ce matin.
Content de te retrouver également. Tu veux me parler de Charles Leblanc, donc un petit gars d'ici, de ce que je comprends par son nom, à moins que je me trompe, qui joue avec les Marlins et qui joue très bien même.
Ben oui, tout à fait. J'ai souvent fait une entrevue, des entrevues avec Charles au fil des années. Il m'a expliqué à quel point c'était compliqué. Il m'expliquait aussi la réalité des ligues mineures du baseball majeur. Alex, qu'est-ce que Charles Leblanc a réalisé dans les derniers jours? C'est exceptionnel. Exceptionnel dans le sens que Charles Leblanc aurait pu abandonner v'là très longtemps. Dire « Hey, c'est trop difficile, c'est pas payant ». La pandémie a aussi fait excessivement mal à Charles. Charles est obligé de revenir vivre au Québec chez ses parents à Laval, chômédé pour les intimes. Et il fallait qu'il trouve un T-ball, il fallait qu'il trouve une cage des frappeurs. Évidemment, il y a eu de l'aide de la communauté baseball au Québec. Et là, cet hiver, il y a eu un mouvement personnel où ce que les Rangers du Texas l'ont échangé aux Marlins de Miami. C'est une transaction qui n'a pas fait beaucoup de bruit, qu'on n'entendait pas souvent, on n'a pas beaucoup entendu parler, mais cette transaction-là a été salvatrice pour Charles. Puis Charles, il a fait le camp d'entraînement avec les Marlins, et il s'est joint au niveau 3A, au Jumbo Shrimp de Jacksonville. Oui, 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 les crevettes géantes de Jacksonville.
C'est un beau nom d'équipe, moi j'aime ça.
Ah oui, tu devrais voir les vêtements, les casquettes, là. Je m'étais dit que si j'allais le voir, j'allais acheter une casquette, c'est sûr et certain. mais malgré tout, à place de dire, hey, il a senti qu'il y avait une opportunité, Charles, il a été vraiment fumant depuis le début de la saison. Il a pas donné le choix à Marlins de le rappeler pour la fin de la saison. Donc, Charles a fait ses débuts samedi. dimanche, lundi, il a fait une série de trois matchs contre les Mets de New York. Et je peux te garantir qu'il a vraiment sa place. Il y a encore un autre coup sûr. Il y a eu un double. Il y a eu un jeu spectaculaire lors de son premier match en défensive. En défensive, il y a eu un super plongeon. Il s'est relevé. Il a lancé la balle au premier but. Il a retiré un jeu de la semaine, finalement. Mm. Et le lendemain, un double, un circuit, son premier dans les majeures. Je pense qu'on peut pas demander mieux pour Charles Leblanc à ses débuts dans le baseball majeur. Puis, sais-tu quoi? Qu'est-ce que je trouve encore plus touchant? C'est que son père, Paul, et sa mère, Evelyne Boudreau, étaient au match avec des amis, sa sœur, toute sa famille, pour assister à ce grand moment-là. Et tu t'as vu, lors du premier coup de circuit, son père, il avait enlevé ses lunettes, puis il suivait ses yeux. Puis, je connais un peu M. Leblanc, Paul Leblanc, puis c'est tellement mérité. Ça peut pas arriver à du meilleur monde que ça. Monsieur Leblanc et sa femme ont supporté Charles pendant toutes ces années-là. Et Charles les remercie à toutes les fois quand je parle à Charles. Mais sérieusement, c'est une super histoire parce que on pensait plus que ça allait arriver là. Tu sais, il était vraiment à la croisée des chemins et ouais. Là, il a réussi à faire son petit bonhomme de chemin vers le baseball majeur. Et là, il joue au troisième but comme partant. C'est gros, là. Il est pas genre réserviste à l'avant-champ. Non, il joue au troisième but. Oui, il frappe huitième, neuvième dans l'ordre des frappeurs. Sauf que là, il joue dans la grosse ligue, puis il est partant. Donc, puis là, il semble pouvoir saisir sa chance. Fait que tout ce qu'il fait présentement, c'est de l'argent en banque.
Ouais.
Parce que là, il est bientôt, peut-être à la fin de l'année, les Marlins, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Il y a une visibilité à travers le baseball majeur. Alors, une super histoire. Alex, là, si t'as la chance de regarder Charles Leblanc, dis-toi que c'est pas Leblanc from Missouri ou Arkansas.
Non.
C'est un petit gars de chez nous, un petit gars de Laval qui mérite pleinement tout ce qui lui arrive.
Ouais, puis qui saisit vraiment la chance quand elle passe là en ce moment. Félicitations pour ses belles performances. Puis ça fait toujours du bien de voir des Québécois d'ici, des Québécoises le rayonner un peu partout. Un dossier sur lequel je voulais absolument qu'on revienne, Mathieu, c'est celui de Deshaun Watson dans la NFL, hein, qui était accusé par près de 30 femmes d'inconduite, d'agression sexuelle. Et là, finalement, on attendait là, avec impatience l'annonce de la sentence qui allait être passée par la Ligue. 6 matchs de suspension. That's it, that's all, comme disent les Anglais.
Oui.
C'est tout?
Ça me dépasse. Les Browns, là, je suis les Browns, là, le président, le propriétaire, ben, je danse dans mon bureau.
Ouais, parce qu'eux ils ont eu chaud, hein?
Oui, parce que, à un certain moment donné, il parlait d'une année de suspension complète. Mais là, il venait de se donner un contrat de 230 millions pour 5 ou 6 ans. Alors, il voulait avoir le gars sur le terrain et non pas chez eux en train de manger des chips. Donc, ils ont eu chaud. Là, il va y avoir 6 matchs qui ne seront pas sur le terrain. Mais quand même, on dit, les victimes, ils vont pas vers la police. Ils vont pas... Là, tu viens de faire... Roger Goodell puis son équipe de supervision, de sanctions, viennent de se couvrir un peu de ridicule. Parce que là, ils viennent de dire, grosso modo, ben, c'est 6 matchs, il y a eu 24 victimes, il y a eu 23 règlements sur les 24 victimes, donc il y a un règlement hors cours à avoir pour Deshaun Watson avec une victime. Mais là, ça veut dire si tu cumules ces 4 filles par match, c'est ça que je le comprends. C'est 6 fois 4, 24, puis tu sais, je veux dire. Moi, Alexandre, je comprends pas. Lui, là, c'était des massothérapeutes. Puis là, c'est pas rien qu'une, c'est 24. Mais là, est-ce qu'ils se sont fiés à qu'est-ce qui est arrivé à Tiger Woods? Tiger Woods, il n'a pas été nécessairement... lui, qu'est-ce qui a fait mal, Tiger Woods? Ça a été vraiment beaucoup de prostituées et il a perdu beaucoup de commanditaires. Lui, ça a fait mal au niveau du portefeuille. Mais Deshaun Watson, lui, il perd 6 matchs, il doit être payé sans salaire. Mais je comprends pas que la suspension soit plus sévère.
Ouais, puis
Ray Rice, il me semble, il avait battu une femme, on l'avait vu dans un ascenseur, tu te souviens?
Ouais, c'était une histoire aussi.
Et la suspension avait été plus sévère, il me semble, parce que c'est un cas de violence conjugale. Mais là, c'est quoi le barème là, de la NFL? Des fois, les gars sont pognés avec du cannabis dans le sang. Ils ont de toutes les sortes dans la NFL là, au niveau des suspensions. Celle-là, je sais pas. J'aurais peut-être fait un 8 matchs, une moitié de saison, peut-être 6 matchs. Je trouve ça un petit peu insuffisant. Un peu une sentence bonbon, comme le dirait M. Poirier, là, Claude Poirier, là, dans le temps. Là.
Ouais, une sentence bonbon, surtout dans le contexte actuel, puis avec toutes les violences sexuelles qu'on voit dans les sports. Mais beaucoup ici, là, en ce moment, dans nos fédérations sportives au Canada, mais c'est la même chose dans le sport en général. C'est clair que ça envoie pas le bon message, puis que si vous êtes un joueur très bien payé, gros salaire, puis qu'il y a une équipe qui a payé cher pour vous, ben on va peut-être vous laisser aller avec une tape sur le poignet. Moi aussi, ça me désole malheureusement un peu. Et en terminant, Lance Stroll, hein, qui perdait, disons, un ex-champion du monde, hein, un bon mentor qu'il avait avec lui. Mais heureusement, on apprend que c'est un autre ex-champion du monde qui va venir être coéquipier avec lui.
Oui, Alex, c'est Fernando Alonso qui va prendre la place de Sébastien Vettel qui a décidé de prendre sa retraite de la F1. Sais-tu quoi? Je pense que c'est une excellente nouvelle pour Lance Stroll. Fernando Alonso, là, il a 41 ans, OK? Il a tout vu, il a tout fait. Il a essayé de doyer des pilotes dans la F1. Et je peux te garantir que ce gars-là, il a le bon tempérament pour aller avec Lance Stroll. Vettel, lui, il arrivait là, puis il voulait essayer de challenger un peu le jeune. Puis, tu sais, je veux pas dire qu'il y avait de la chicane dans l'équipe, mais j'ai l'impression que Fernando Alonso, lui, il est vraiment cool. 41 ans, deux fois champion du monde, 32 victoires. Il va arriver là, puis aucune pression. OK, Lance, calm down. Tu sais, quand ça va moins bien, on relaxe. Tu sais, il a été dans les dernières années avec beaucoup avec des équipes moins performantes, là, Fernando Alonso, mais il a trouvé une façon de se démarquer puis de se distinguer pareil. Donc, il faut falloir que les résultats arrivent à un moment donné chez Aston Martin. Aston Martin Racing, depuis sa création, livre pas la marchandise. Ils ont de la misère à faire des top 10. Ils ont de la misère à se rendre loin dans les qualifications. Je pense qu'avec Alonso et Stroll, je pense que ça peut être un très bon mix. Puis Lance Stroll, veut pas, il y a encore des choses à prouver en F1. Puis Fernando Alonso, je pense qu'il va pousser le jeune dans le dos, puis une saine compétition. Puis on espère que ça va donner des bons résultats au classement pour Monsieur Stroll, le père. Parce que là, il a investi des millions et des millions et des millions là-dedans. Mais pour le moment, les résultats se font attendre.
Oui, se font attendre. Puis il pourrait venir avec Fernando Alonso, comme tu l'as dit. C'est pas un pilote qui est né de la dernière pluie. Il y en a derrière la cravate. Mathieu Boulay, merci d'avoir été là. Content de t'avoir retrouvé. On se reparle demain.
Alexandre Morinville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information. Sans dérapage, ni accrochage.
Cube Radio.
Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
On my hip, stretch marks on my tits. Drinking my water, minding my biz. Monday I'm overrated, Tuesday on my dick.
On rentre avec fracas dans la rencontre avec Julia Pagé, Rémi Villemur. C'est qui ici le ou la plus grande fan de Beyoncé? Ici, en levant la main verbalement pour que tout le monde nous entende en audio.
Moi, ma main est levée verbalement jusqu'au ciel. Je suis comme la plus grande fan de Beyoncé sur la planète Terre.
Rémi, est-ce que tu dis mieux?
Non, j'aime bien la pop du début des années 2000, sauf que Beyoncé, malheureusement, n'occupe pas une place très chère dans mon répertoire.
Ce qu'on entendait il y a quelques instants, c'est la chanson Heated, qui est tirée de Renaissance, qui est l'album le plus récent de Beyoncé. Et dans l'extrait qu'on entendait tantôt, on entendait les paroles Spazzin' on that ass, spaz on that ass. Donc, des paroles que je ne traduirai pas, je pense que tout le monde va les comprendre, mais qui ont fait réagir beaucoup et qui vont même forcer Beyoncé à modifier ces paroles-là dans cette chanson, parce que spaz est un terme qui renvoie, entre autres, au terme médical de l'état d'une personne qui est spasmodique, qui souffre donc de spasmes musculaires sévères. Et donc, pour éviter d'aller parler comme ça des minorités handicapées qui subissent ce préjudice physique-là, on va changer les paroles. Julia, tu penses quoi, toi, de cette modification-là, surtout du tollé qui est survenu quelques jours seulement là, après le release, si on veut, de cette chanson-là?
Moi, je trouve que c'est super. Je trouve que c'est vraiment super ce qui s'est passé avec Beyoncé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme spaz est très utilisé chez les Afro-Américains et il a perdu un peu sa connotation dans cette communauté-là. Mais en Grande-Bretagne, le terme est beaucoup, beaucoup plus péjoratif. Et c'est ce que Beyoncé n'avait pas anticipé. Elle en a pris conscience, elle a pris action en retirant le mot de sa chanson, et c'est tout. Alors, tous ceux qui ont martelé qu'on ne pouvait plus rien dire, qu'au moindre faux pas, notre vie pouvait être ruinée, ben, ils avaient tort. Quand on est sincère et empathique, quand on prend action, tout se passe à merveille. Et il y a pas mal de gens qui auraient pu s'éviter pas mal de troubles si, à la place de réagir à ce genre de choses impulsivement avec ego, ils avaient pris le temps d'écouter avec humilité et intelligence et de prendre action. Donc, je pense que c'est un super exemple de la façon dont on devrait agir quand ce genre de choses survient. Puis, il y a plein de termes péjoratifs dans nos langues et, à mon sens, toute tentative de réduire leur portée ou leur utilisation est louable et je vois pas vraiment comment on pourrait faire l'argument contraire. Peut-être que Rémi va tenter sa chance. J'ai hâte de voir.
Bon, on va le laisser tenter sa chance. Mais là, je comprends. Je t'avoue, moi, je savais pas non plus que spaz, c'est un terme péjoratif au Royaume-Uni. Tu vois, c'est toi qui me l'apprends en ce moment. Rémi, toi, ta réplique à tout ça?
Ben, en fait, je vois pas en quoi c'est passé et la preuve que quand on ouvre le dialogue, tout se passe bien. Parce que si Beyoncé avait pas décidé de reculer, je me demande ce qui se serait passé. Et deuxièmement, s'il y a bien des gens qui ont réagi avec impulsivité, c'est bien les gens, et avec égoïsme, c'est bien les gens qui ont demandé de changer les paroles tout à fait modestement parce qu'ils ont une condition médicale donnée. Donc, c'est pas les gens qui ont entraîné un tollé parce qu'ils trouvaient ça fou que la demande se fasse. C'est les gens qui ont demandé que la demande se fasse. Moi, en généralement, dans des genres de situations comme ça, quand c'est de la littérature, par exemple, je suis au premier rang pour défendre. Mais tu sais, on parle d'une chanson de pop un peu insignifiante. Là, je l'ai écoutée. Là, tu sais, Beyoncé n'a jamais été vraiment reconnue pour les paroles de ses chansons. Là, c'est quelqu'un qui a des instrumentales entraînantes. Donc, tu sais, ça m'affecte pas beaucoup. Par contre, je trouve ça toujours dommage que les artistes capitulent. Les Rolling Stones en 2021. Avaient retiré Brown Sugar de leur répertoire parce que c'était une chanson qui dénonçait l'esclavage, soit dit en passant, et il n'y avait pas suffisamment de gens intelligents pour le remarquer. Donc, les Rolling Stones, qui étaient très divisés à l'époque, il y avait Mick Jagger, qui est un peu plus woke, lui, il ne voulait pas du tout de problème, puis Keith Richards, lui, s'était accroché à l'idée de la garder, mais bon, il était minoritaire dans le groupe. Donc, je suis déçu que les artistes capitulent, mais en même temps, je sais que l'intimidation qu'ils subissent est complètement folle. Aujourd'hui, tu peux tout perdre si tu résistes à des demandes de la sorte. Ça peut débouler très vite. Les campagnes de salissage et de censure peuvent être cruelles, et les artistes le savent. Mais heureusement, il y a des gens qui résistent encore. Il y a Snoop Dogg qui nous écoute probablement en ce moment.
Là, oui, oui.
Ouais. Snoop Dogg s'était fait demander il y a 4 ans s'il regrettait des paroles de ses chansons, puis il avait répondu « Hell no ». À un moment donné, c'est de la musique, là, quand même.
C'est de la musique. En même temps, on s'est assez demandé si Beyoncé a vraiment réagi soit par peur de subir une campagne comme ça assez longue sur elle, ou si B, c'est vraiment parce que c'est un enjeu qui l'a préoccupé. Quoi qu'il en soit, c'est fait, puis c'est sûr que ça évite quand même là une espèce d'énorme tollé, surtout que c'est pas la chanson complète qui est retirée, c'est juste un morceau là qu'on va refaire et enregistrer. Sans conséquence, mais c'est vrai que ça, c'est un autre exemple quand même là, de parole forcée de modifier après un petit tollé populaire. Grosse question ce matin, on s'excuse, il est juste mardi, on le sait, les gens sont allés prendre leur café en nous écoutant, on salue Snoop Dogg encore une fois, merci Rémi. Est-ce qu'on devrait craindre en ce moment, c'est une grosse question que je vous pose, est-ce qu'on devrait craindre le conflit nucléaire? Parce que oui, là, c'est assez gros la question que je pose, mais en ce moment, en Russie, dans les émissions de, disons, étatiques, là, on va le dire comme ça, là, des émissions de propagande, on parle beaucoup, de plus en plus, d'utiliser l'arme nucléaire. On dirait qu'on prépare la population à cette espèce d'éventualité-là. Julia, toi, est-ce que ça t'empêche de dormir la nuit?
Oui et non. Donc, la question nucléaire, c'est pas ma spécialité, mais quand on étudie les sciences politiques, c'est vraiment un incontournable. Puis en relation internationale, quand on parle de guerre nucléaire, on dit que c'est la seule guerre qui n'a pas de gagnant, ça mérite d'être clair. Et ce que ça explique finalement, c'est que l'arme nucléaire... En fait, c'est un peu difficile à croire, mais l'arme nucléaire est plutôt une arme de défense. C'est plutôt une arme stratégique et pas vraiment une arme offensive. Pourquoi? Ben parce qu'elle n'est pas vraiment faite pour être utilisée. Tout le monde sait que les conséquences seraient beaucoup trop extrêmes. Alors, on se munit de l'arme nucléaire pour dissuader les autres de l'utiliser. En fait, pour être plus précise, les conventions en relations internationales veulent que c'est pas vraiment qu'on ne peut pas utiliser l'arme nucléaire, mais c'est qu'on ne peut pas utiliser l'arme nucléaire en premier. On peut seulement l'utiliser pour répondre à une attaque. Donc, en gros, personne n'utilise. Mais la crainte en ce moment, c'est que la Russie soit prête à rompre ce pacte. On sait que Poutine a déjà fait allusion au fait qu'il était prêt à mourir en martyr pour ses revendications. Donc, il brandit l'arme nucléaire parfois de façon subtile, parfois de façon pas subtile du tout. Et il nous met face à des solutions qui sont vraiment pas idéales. Parce que d'un côté, on peut complètement éviter la menace, c'est facile, on fait ce que la Russie demande. Mais c'est quoi la limite? Et l'autre solution, c'est de ne pas entrer dans le jeu de la Russie, de durcir le ton, de ne pas plier aux menaces. Mais là, on aurait raison de craindre une escalade des tensions qui pourrait pousser la Russie à aller de l'avant avec l'utilisation de l'arme nucléaire. Donc, tout ça est évidemment beaucoup plus nuancé, beaucoup plus... Il y a aussi des armes nucléaires à plus petite portée, mais bon, l'escalade serait la même. Mais tout ça nous prouve qu'il n'y a jamais de solution parfaite et que l'arme nucléaire complique vraiment les choses.
Toi, tu le sais, là, Rémi, toi qui t'intéresses beaucoup à l'histoire, tu le sais qu'on est déjà passé là, extrêmement proche hein, de ce qu'on peut appeler l'Holocauste nucléaire, là, sachant qu'à un certain moment dans la guerre froide, là, il y a un sous-marin russe qui a failli appuyer sur le bouton rouge pour envoyer une salve. Toi, est-ce que ça t'inquiète?
Ben oui, ça m'inquiète. Je pense qu'on devrait tous être inquiets. Puis je pense d'ailleurs que c'est cette espèce d'inquiétude-là qui fait en sorte qu'on vit au jour le jour, qu'on vit dans l'urgence. Moi, je suis assez fan des théories philosophiques autour de l'enjeu des guerres nucléaires. Tu sais, je pense qu'on est pressé de vivre parce qu'on sait inconsciemment que tout peut se terminer rapidement. Mais il faut s'intéresser au contexte là, historique justement qui nous a mené à ça. Là, parce que depuis la chute du mur à la fin des années 80, il y a un monde unipolaire, c'est-à-dire que les États-Unis dominent le monde. C'est incontestable. Et il y a des superpuissances comme la Chine et la Russie qui sont des puissances millénaires qui, par orgueil, peut-être, on peut le dire comme ça, ne tolèrent pas ça. Et en fait, à partir de la fin des années 80, là, on est entré dans une ère de délinquance. Là. Toutes les organisations d'après-guerre comme l'ONU se sont mises à être dysfonctionnelles. Personne n'écoute le droit international, personne n'obéit au droit international. Hein. Les États-Unis ont envahi l'Irak sans le support de l'ONU en 2003. Puis il y a la mondialisation aussi, à mon avis, il faut le rappeler, la mondialisation qui rend les États dépendants les uns des autres, puis les États ennemis parfois dépendants des uns des autres. On regarde ce qui se passe avec le gaz russe en ce moment. L'Allemagne dépend du gaz russe alors que l'Allemagne est beaucoup plus alliée à l'Ouest qu'à l'Est. L'Allemagne est membre de l'OTAN. Donc ça fait en sorte que on se rapproche d'un conflit international. On est capable de faire des guerres pour le pétrole. Ça s'est déjà fait. Moi, je pense que la solution, c'est de revenir à un état du monde qui est multipolaire. Pas bipolaire, parce qu'on a vu que ça marchait pas non plus quand c'était URSS, États-Unis. Donc, un monde où il y a plus de sphères d'influence. Par exemple, les États-Unis, la Chine, l'Inde, éventuellement. Puis, il faut aussi que les États-nations tournent le dos à la mondialisation. Là, je fais une espèce de discours de sciences politiques, là. Mais c'est important de comprendre que quand les États dépendent les uns des autres, bien, quand il y a un problème comme un problème d'approvisionnement en gaz, tout peut éclater rapidement. Puis c'est important aussi de revenir à des sphères d'influence. Un monde qui est juste gouverné par les États-Unis, ça nous mène à ça. Parce que l'état de nature, c'est on a besoin de sécurité, on a besoin de compétitionner, puis on voit ce que ça donne.
Tu vois, je pensais pas que tu t'en allais de ce côté-là quand tu parlais de la philosophie autour des armes nucléaires, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, le point que tu apportes. Moi, on dirait que je suis toujours fasciné, puis c'est un sujet sur lequel je vais vouloir qu'on revienne. Je suis toujours fasciné de voir, de savoir que l'être humain, là, on n'est pas capable encore de trouver toutes les solutions au changement climatique. On n'est pas capable de régler toutes sortes de mystères scientifiques, mais on a été capable de créer des armes tellement puissantes. Notre volonté de s'entretuer entre nous est tellement forte qu'on a créé des armes dont on ne peut jamais se servir sous peine de risquer d'annihiler notre race et notre planète au grand complet. Moi, il y a quelque chose que je trouve suprêmement ironique là-dedans, puis ça m'a toujours fasciné. Sujet sur lequel nous promettrons de revenir. Julia Pagé, Rémi Villemur, merci pour vos lumières. Content de vous avoir retrouvé ce matin. On se retrouve demain.
Vous écoutez Alexandre Morin-Ville-Ouellette.
Cube Radio.
Moi qui pensais qu'avec la COVID-19, le travail dans les médias, on a fait le tour beaucoup d'à peu près tous les domaines qui ont été, disons, frappés par la COVID-19, qui ont reçu des impacts mineurs, majeurs, de la pénurie de main-d'œuvre, l'inflation, des facteurs qui affectent toutes sortes d'entreprises. Mais il y en a une, un type d'entreprise sur lequel je ne m'étais personnellement jamais penché, et c'est les Tupperware. Vous connaissez sûrement les fameuses présentations qui se faisaient à domicile, extrêmement populaires, même encore il y a quelques années à peine maintenant de cela, les présentations de Tupperware. Mais lorsqu'on apprend, c'est qu'au Québec, c'est de plus en plus difficile de trouver ces fameuses démonstrations-là. Et pour cause, les vendeurs et surtout les vendeuses de Tupperware sont de moins en moins présentes et démissionnent de plus en plus. Pour en parler avec nous, Martine Gauthier est ancienne directrice de Tupperware. Elle l'a été pendant 12 ans. Madame Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Tout premièrement, vous, jusqu'à février dernier, si je ne m'abuse, c'est ça, vous étiez encore directrice de Tupperware. Pour ceux qui n'ont jamais eu le plaisir de recevoir une de ces démos-là à domicile, ça consiste en quoi, votre travail de directrice de Tupperware?
Ben en fait, c'est sûr que le travail premier d'une conseillère Tupperware, c'est toujours de faire des présentations à la maison, d'expliquer les produits, puis c'est le cœur de l'entreprise, c'est le modèle d'affaires de l'entreprise depuis 75 ans et plus, là, je dirais. Là. Alors, c'est sûr que ça, c'est la prémisse de l'entreprise, c'est ça. Puis au travers de ça, ben quand on devient, quand on a une équipe à gérer, ben c'est tout ce qui s'ensuit de la gestion d'une entreprise, c'est-à-dire formation des nouvelles employés, encadrement, développement, etc. Mais à la base, ça reste toujours que, peu importe qu'on soit conseillère, gérante, directrice de tous les niveaux, à la base, on est conseillère, on vend nos produits, on les explique et c'est ça, on essaie de faciliter la vie des gens avec nos produits.
Et avant la pandémie, ça marchait bien, ce genre de démonstration-là? Je comprends que vous alliez... J'ai personnellement jamais assisté à une présentation de Tupperware, mais je comprends que vous alliez chez les gens, justement, puis parfois, ils se rassemblaient, faisaient une soirée. Est-ce que ça prenait en plus un verre de vin en magasinant les produits? Est-ce que ça ressemblait à ça, une soirée avant la pandémie?
Tout ça, absolument. Et moi, la partie de mon travail que je préférais, c'est ça, c'est le contact avec les gens, c'est l'intimité qu'on avait aussi dans la cuisine des hôtesses qui nous recevaient, qui nous faisaient confiance, c'est le lien qu'on développait avec leurs amis, leur famille, puis c'est quelque chose qu'on peut pas avoir en virtuel, qu'on a perdu complètement avec la pandémie, parce que tu sais, je vous fais un exemple. Je comprends que vous connaissez peu les produits Tupperware, mais des fois, les gens qui les connaissent disent « Moi, j'ai besoin d'un intellifrais pour garder mes raisins. » Bon, mais la personne s'en vient en tête en me disant « Ben moi, je m'en vais chez mon ami Nancy, puis je vais acheter un intellifrais. » Mais le fait d'être ensemble, le fait de partager, d'être en groupe, ça crée un effet d'entraînement. Puis moi, c'est sûr que moi, mon travail comme conseillère consistait aussi à proposer des choses, à essayer de montrer aux gens qu'on peut faciliter la vie avec ces produits-là. Puis souvent, ben les autres personnes embarquaient puis disaient « Ah, ben moi, j'ai ça, puis ça, c'est le fun, puis tu devrais essayer ça. » Et ça fait que la personne achetait son intellifrais, mais achetait deux, trois autres produits aussi par l'effet d'entraînement, puis parce que c'était dans une soirée comme ça, avec un peu de vin, avec du plaisir, avec... Tu sais, c'était ça, moi, j'avais tout ce côté-là, mais on avait aussi tout le côté où on était capable d'aller chercher une nouvelle clientèle parce qu'on était en groupe qu'on a perdu complètement avec la pandémie.
Ouais, puis en perdant ça avec la pandémie, Tupperware, l'entreprise elle-même, a commencé à avoir beaucoup de difficultés. Selon le quotidien français, Les Échos, entre autres, on parle du tiers de la valeur en bourse qui serait perdue du côté de Tupperware en date de mai 2022. Votre démission s'inscrit un peu dans tout ça. Vous avez démissionné personnellement justement parce qu'il vous manquait ce contact humain-là. Ça vous manquait, mais est-ce qu'il y a aussi une question salariale qui entrait dans cet ordre-là?
Je dirais que c'est pas la raison première. Je l'ai fait parce que j'avais plus de plaisir à faire ce que j'aimais faire. Puis pour moi, ça, c'était comme une base. Je me suis toujours dit que ça serait pas l'argent qui me garderait dans un emploi. J'ai besoin d'aimer ce que je fais et je n'avais plus de plaisir. Honnêtement, il y a eu beaucoup de changements. Oui, c'est vrai que Tupperware a dégringolé, disons-le comme ça, là, dans les dernières années. Mais il y a eu beaucoup de changements à l'interne et moi, je ne reconnaissais plus les valeurs de la compagnie pour laquelle je m'étais engagée il y a 12 ans.
Alors, puis vous n'êtes pas la seule de ce que je comprends, c'est ça? Il y en a d'autres aussi. Ben, il y a pas mal d'autres aussi comme vous qui ont décidé de quitter.
Ben, je pense que oui, là, il y a un phénomène de ça. Puis tu sais, le virtuel est là, puis je comprends qu'à un moment donné, on a besoin de se réinventer. Puis je l'ai fait, là. C'est drôle parce que je lisais beaucoup les commentaires suite à l'article. Je l'ai fait beaucoup pour réinventer. À un moment donné, c'est beaucoup d'énergie pour ce que ça rapporte, mais aussi le fait que le modèle d'affaires n'a pas changé avec tout ça, le fait que Tupperware ne s'est pas réinventé lui, c'est tout ça, je pense que. Puis là, moi, je parle en mon nom, je peux pas parler au nom de chacune des autres personnes qui a pris cette décision là.
Bien sûr.
Parce qu'il y en a. Moi, c'est une décision personnelle, puis c'est une décision. C'est un choix que j'ai fait, mais je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas fait par choix. Ils l'ont fait parce qu'elles ne pouvaient plus continuer à faire les standards qui étaient demandés par Tupperware pour garder le titre de directrice, tout simplement.
Et donc, vous, est-ce que vous êtes orienté là maintenant pour le futur dans un travail qui est encore en contact client, contact personne à personne maintenant que la pandémie, les mesures sanitaires, ça s'est calmé un peu ou vous avez pris une toute autre direction?
Ben, la vie est tellement bien faite. Alors, moi, quand j'ai choisi dans ma tête de quitter Tupperware, je suis allée en parler avec une amie entrepreneur là, qui reste pas loin de chez nous. Puis je me disais, ben, elle va comprendre ce que je vis parce que je me considérais quand même comme une entrepreneur. Et puis, après lui avoir expliqué ma situation, elle m'a bien écoutée. Puis elle a dit, ben, parfait. Elle dit, moi, j'ai besoin de toi. Alors, je travaille aux ventes et au marketing pour une entreprise qui fait des biscuits, des craquelins, des collations. Alors maintenant, je ne suis plus dans le contenant, je suis dans le contenu.
Bon, ben, content de voir que vous avez pu retrouver une nouvelle débouchée. Les Tupperware, oui. Donc, qui mangent une petite dégelée, qui vont peut-être revenir comme ça avec le retour des contacts humains à humains. C'est sûr que c'est peut-être quelque chose maintenant qui est un peu plus recherché qu'avant la pandémie. Martine Gauthier, ancienne directrice de Tupperware pendant 12 ans. Merci beaucoup d'avoir été là.
C'était un plaisir. Merci.
Au revoir. C'est ce qui met fin à notre émission pour aujourd'hui. Plusieurs sujets diversifiés de l'actualité là, à craquer pour le reste de la journée. C'est d'ailleurs Alexandre Dubé. Je fais des rimes, mon Dieu, depuis tantôt. Je fais même pas exprès, je vous le jure. C'est Alexandre Dubé qui prend le relais. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain, 9h.
Cube Radio.